Mars, la nouvelle odyssée, au-delà de la planète rouge, Olivier Aymon.
Dans notre système solaire, Mars marque une frontière. Au-delà, les spécialistes parlent d'ailleurs de système solaire externe. On pénètre là dans un monde fait d'astéroïdes, de planètes géantes gazeuses, de lunes glacées. Un monde que les scientifiques observent depuis la Terre, en imaginant même l'existence de planètes invisibles, mais aussi en envoyant des sondes sur place, comme la mission JUICE qui vient de prendre son envol vers Jupiter.
Galilée, hein, quand il a observé les lunes de Jupiter en 1610, il a vu des lunes qui tournaient autour d'une autre planète que la Terre. Ça lui a valu les ennuis qu'on sait, mais après l'idée s'est imposée. Et puis finalement, on est une petite étoile dans une galaxie qui n'a pas grand-chose de remarquable. La Terre n'est pas le centre de l'univers.
Olivier Sanguy est responsable des actualités spatiales de la Cité de l'Espace à Toulouse, fidèle partenaire de ce podcast. C'est avec lui que nous partons à la découverte de ce monde où beaucoup reste à découvrir.
Des frontières dans le système solaire, il n'y a que ça. Par exemple, la frontière de la fin du système solaire, il y en a plusieurs. Il faut savoir que les sondes Voyager l'ont franchie plusieurs fois, parce qu'elles bougent déjà, selon ce qu'on prend en compte. C'est-à-dire, si c'est l'activité du Soleil plus importante par rapport à celle des étoiles environnantes, cette frontière fluctue, donc Voyager. Les Voyager ont franchi plusieurs fois la frontière. Et puis, il y en a qui disent, non, la vraie frontière, c'est le nuage de Oort, c'est-à-dire un nuage de comètes beaucoup plus loin. Donc oui, Mars, c'est une frontière tout de même, parce que au-delà de Mars, il y a la ceinture principale d'astéroïdes, une sorte de vide, et au-delà, il y a les planètes géantes, le système solaire externe, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, et jusqu'à une certaine époque, Pluton. Donc oui, ça fait partie des frontières, et on estime parfois que c'est la limite, pour l'instant, pour les vols habités, c'est-à-dire que Mars, déjà, en vol habité, sera très très compliqué, et il y a un débat sur peut-être qu'au-delà de Mars, ce n'est pas possible, mais il n'est pas complètement tranché.
Je posais la question sur une frontière, c'est parce qu'on entre quand même au-delà de Mars dans un monde très différent. Des planètes géantes, des mondes glacés, et puis des anneaux autour de planètes, enfin des choses qu'on ne voit pas sur plus proche de nous quand on regarde Mars, évidemment, mais que ce soit les autres petites planètes, on va dire, comme Mercure ou Vénus.
Oui, ce sont des mondes fascinants. Jupiter, Saturne, par exemple, ce sont... moi, j'avais entendu une fois un astrophysicien dire que ce sont des expériences de laboratoire qu'on ne peut pas se payer sur Terre. Jupiter, par son champ magnétique extrêmement intense, Jupiter a des anneaux très fins. Saturne, bien sûr, on connaît. Et les anneaux de Saturne, en eux-mêmes, c'est un laboratoire pour comprendre la gravité, par exemple. Mais voilà, donc oui, ce sont des mondes extrêmement différents. Mercure, Vénus, la Terre et Mars, ce sont des planètes telluriques. Il y a un sol. Jupiter, Saturne, c'est des géantes gazeuses. Uranus, Neptune, on appelle ça maintenant des géantes glacées. Quand j'étais adolescent, il y a 40 ans, on disait encore que c'était des géantes gazeuses, comme Jupiter et Saturne. Maintenant, on emploie le terme plutôt géantes glacées à cause de la température très froide. Donc on voit que la connaissance de ces mondes-là évolue énormément. Et pourtant, ce sont des mondes qu'on a malheureusement assez peu survolés comparé à Mars.
C'est la distance qui fait qu'on s'en est détourné, en tout cas qu'on n'a pas porté le regard vers elle, ou c'est autre chose en se disant finalement ces mondes-là n'ont pas un intérêt débordant.
On a eu d'énormes surprises en les survolant. C'est-à-dire au départ, on disait il n'y a pas grand-chose d'intéressant, c'est inerte. Bon, on a eu de très très bonnes surprises. Hein. Alors la distance, oui, parce que la distance implique un temps de trajet long. Un temps de trajet long, ça veut dire un engin spatial qui doit résister pendant des années et des années, donc ça a un coût. Aussi, on s'éloigne du soleil, donc les panneaux solaires, on oublie. Ce sont des missions longues, ce sont des gens qui travaillent au long cours sur ces missions, donc tout ça, il y a un coût. Alors, il y a eu, dans les années 70-80, il y a eu une première vague d'exploration. C'est ce que l'astronome américain Carl Sagan appelait le cadeau d'Apollo. C'est-à-dire, pour Apollo, on avait mis en gros une infrastructure industrielle gigantesque qui pouvait aussi faire ça. Et puis après, il y a eu beaucoup Mars, il faut le reconnaître. Et donc, il faut faire des choix budgétaires. Et c'est vrai que ces destinations sont lointaines et compliquées, avec des fenêtres de tir qui, là, c'est pas Mars, en gros, c'est tous les 2 ans. Là, on est plutôt entre 5 et 10 ans en fonction de la stratégie de mission qu'on veut faire. Il faudrait une fusée énorme avec un engin énorme. Et là, on ne sait pas encore faire.
C'est quand même des mondes qu'on connaît un peu parce que, ne serait-ce que depuis la Terre, on a pu les observer depuis très longtemps. Les lunes, par exemple, de Jupiter, on les connaît depuis le XVIIe siècle.
Et en plus, les lunes de Jupiter, c'est elles qui ont commencé à bien faire tomber l'idée que tout tournait autour de la Terre, puisque Galilée, hein, quand il a observé les lunes de Jupiter en 1610, il a vu des lunes qui tournaient autour d'une autre planète que la Terre. Ça lui a valu les ennuis qu'on sait. Mais après, l'idée s'est imposée. Et puis finalement, on est une petite étoile dans une galaxie qui n'a pas grand-chose de remarquable. Ça a été un petit peu le début de ce qu'on appelle parfois en rigolant la provincialisation de la Terre. La Terre n'est pas le centre de l'univers. Mais c'est vrai que ça a commencé par les lunes de Jupiter. Enfin, le processus, on va dire, intellectuel et scientifique pour le monde occidental, parce que dans le monde grec, on avait déjà les idées comme ça. Mais les lunes de Jupiter ont été une des premières grandes preuves astronomiques tangibles, comme quoi non, tout ne tourne pas autour de notre planète.
Et aujourd'hui, on se rend compte que ces lunes, par exemple, ne sont pas aussi inertes, ou ces planètes ne sont pas aussi inertes qu'on le pensait. Et que ce monde bouge aussi, et est aussi dynamique.
Le grand cadeau des missions Pioneer et Voyager, d'abord Io, lune volcanique, donc en termes d'activité géologique, c'est extrêmement...
Lune de Jupiter.
Voilà, lune de Jupiter, c'est extrêmement impressionnant. Une activité volcanique est largement plus forte que la Terre. Io, c'est quasiment que des volcans. Europe, avec un océan sous une banquise, et cette banquise qui se refait en permanence, Europe bouge. Ganymède, Callisto, des océans sous de la glace. Titan, on savait déjà que c'était un objet intéressant, mais grâce à Voyager, donc il y a une atmosphère. On pense que Titan, en gros, a une chimie comparable à ce qu'il y avait peut-être au début sur la Terre. On dit prébiotique. Et la grande surprise d'Encelade, des geysers, ça veut dire un océan sous-jacent. Alors d'où vient l'énergie? C'est les effets de marée gravitationnelle avec Saturne, cette fois-ci. Et donc là, on a une lune totalement inattendue, 500 km de diamètre. Petite lune avec une activité si forte. Donc c'est vrai que ce sont des mondes qui ont énormément de surprises.
Saturne, Jupiter, il nous en manque quand même quelques-unes. Encore Neptune, Uranus, on les laisse de côté pour l'instant. Ou là aussi, il y a une envie d'aller voir ce qui se passe. On a vu très récemment des images de ce télescope James Webb qu'on a envoyé dans l'espace il y a un an et demi et qui a montré une image assez nette d'Uranus. C'était une boule bleue comme ça qui ressortait avec les anneaux aussi. On va en parler d'ailleurs des anneaux ensuite.
Oui, Uranus, Neptune, également des laboratoires scientifiques extraordinaires. Alors le problème, c'est qu'Uranus et Neptune, là, c'est simple, une seule sonde, Voyager 2, et puis c'est fini. Et à nouveau, des grandes surprises, Triton. Par exemple, Triton, c'est la lune principale de Neptune. Il y a des geysers. Et il y a la volonté d'y retourner, mais vu les échelles de temps dans lesquelles on est de préparation d'une telle mission, on parle de 2040-2050 pour ces destinations-là, qui sont pourtant identifiées comme des priorités scientifiques depuis deux décennies facilement. Mais il faut trouver les budgets. Et c'est vrai qu'à un moment, on a été très Mars en exploration, parce que Mars est à la fois difficile et plus accessible. Et Uranus, Neptune, ce qu'on voudrait faire peut-être, c'est aussi des orbiteurs, c'est-à-dire des sondes qui tournent autour. Et là, c'est compliqué parce que pour aller aussi loin, il faut de la vitesse. Mais pour se mettre sur orbite autour d'une planète, il faut perdre de la vitesse, ce qui veut dire qu'il faut de la propulsion pour ralentir, donc du carburant. Du carburant, c'est de la masse. Et là, vous comprenez qu'en gros, vous emportez le carburant pour partir, mais le carburant pour freiner. Rappelons que les budgets d'exploration spatiale, c'est pas grand-chose par rapport au budget étatique. Moi, je prends toujours comme exemple que le budget de la NASA, c'est en dessous de 1% du budget de l'État fédéral américain. Et quand je dis le budget de la NASA, c'est pas juste pour faire d'exploration de Mars ou vers Uranus ou Neptune. Faut pas oublier que c'est tout le budget de la NASA. Et le budget de l'Agence spatiale européenne, c'est les mêmes ordres, c'est même en dessous. Donc c'est pas ça qui empêche de faire les grandes priorités de notre époque. Mais il y a toujours, je crois, un petit peu d'éducation à faire là-dessus.
Vous avez cité quelques missions célèbres, Voyager, Pioneer. Il y en a d'autres comme ça qui ont marqué les décennies d'observation de ces mondes assez lointains.
Oui, Galileo, qui est une mission des années 90 qui a complètement révolutionné Jupiter, surtout ses lunes. Alors Galileo, à ne pas confondre avec le système de navigation européen qui porte le même nom. En ce moment, il y a Juno, bientôt il y aura JUICE, la sonde européenne, Jupiter Icy Moon Orbiter, Icy Moons au pluriel, donc plutôt orientée vers les lunes glacées. Mais il ne faut pas oublier une mission pour laquelle j'ai un petit coup de cœur, c'est Cassini-Huygens. Peut-être parce que j'ai vu en direct l'atterrissage de l'atterrisseur européen Huygens sur Titan, c'était en 2005. Et c'était assez extraordinaire parce qu'on a reçu les images d'un nouveau monde. Parce que Titan a une atmosphère épaisse, donc les images des sondes Voyager ont montré juste l'atmosphère, de couleur orange. On ne voyait pas au travers. Et puis Cassini avait un radar qui a permis de faire une cartographie. Donc c'est une mission absolument extraordinaire. Ça, en plus, c'est une coopération internationale. Il faut savoir que Cassini-Huygens a failli être tué budgétairement. Et il y a un moment où l'Europe a dit « Attendez, les États-Unis, vous êtes gentils, mais nous, on a mis de l'argent dans cette mission, vous voulez l'annuler ?» Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les États-Unis ne sont pas un partenaire fiable. Donc les États-Unis ont dit « Ok, on continue la mission. » Et il y a un moment où on s'est dit, ça c'est quelqu'un du Jet Propulsion Laboratory, laboratoire de la NASA qui était chargé de la mission, qui me l'a dit, il y a un moment où on s'est dit « Le logiciel n'est pas prêt. » La sonde est partie sans le logiciel pour exploiter la sonde autour de Saturne. L'avantage d'aller sur Saturne, c'est qu'il y avait 7 ans de voyage. Donc pendant 7 ans, on a fait travailler des jeunes informaticiens en leur disant, voilà, vous devez développer un logiciel de vol et voilà, il faut que ça rentre dans la sonde. Sauf que, imaginez, jeunes informaticiens, même si on est dans les années 2000, on leur a dit, alors la mémoire, c'est pas en mégaoctets, hein, c'est en kilooctets. Et là, c'est un exploit, je veux dire.
Alors on découvre des mondes dynamiques, des mondes glacés, des mondes très 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 divers sur lesquels on a évidemment plein de questions, toujours la même. Est-ce qu'il y a de la vie quelque part ailleurs que sur Terre ?
Oui, et ça a d'ailleurs été un grand changement. C'est dans les années 70-80, on était très Mars pour « y a-t-il de la vie en dehors de la Terre ?» C'est vrai que Mars, ça semblait être la meilleure destination. Et Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, à la limite les plus mauvaises derrière Vénus. On s'est dit « bon, on y va pour d'autres choses ». Et puis il y a eu cette surprise des mondes actifs. Qui dit monde actif dit énergie. Et puis, il y a de l'eau. Donc, eau, énergie, ah, tiens, bon. Et s'il y a des molécules lourdes, voilà. Et donc, c'est là qu'on a commencé à se dire, finalement, Mars, c'est super intéressant, mais on est un petit peu avec des œillères. Si on cherche la vie que sur Mars, on rate d'autres possibilités extrêmement intéressantes. Donc, il y a, bien sûr, il y a Europe, cette lune de Jupiter qui a une banquise, un océan sous cette banquise, très loin. Beaucoup de radiation, mais la vie pourrait se développer sur Europe dans cet océan parce que la couche de glace est un très bel écran en radiation. Il y a Ganymède aussi, là c'est plus compliqué, mais également il y a de l'eau, Callisto peut-être, et surtout autour de Saturne, Titan déjà on se doutait un petit peu. Bon, là c'est plutôt un intérêt, je dirais, de chimie, Titan maintenant, mais il y a Encelade, avec cette grande surprise de Cassini, où il y a sur Encelade, près d'un de ses pôles, il y a ce qu'on appelle les Tiger Stripes, c'est-à-dire des crevasses d'où émergent des geysers de l'océan qui est sous la glace d'Encelade. Alors l'énergie vient des effets de marée gravitationnelle avec Saturne, donc ça fait de la chaleur. Donc là, on a de la chaleur, on a de l'eau. Cassini a analysé, est passé dans les geysers d'Encelade et a détecté certaines molécules, mais pas toutes. Et on se dit, bah, il y a peut-être la recette du vivant. Donc c'est assez fascinant de se dire qu'à plus de 1 milliard de kilomètres du Soleil, il y a peut-être des conditions de vie pour l'habitabilité. Attends, on ne sait pas si c'est habité, bien sûr. L'avantage, c'est que ça ouvre la façon dont on pense. Avant, on cherchait une vie peut-être un peu trop terrienne. Et là, bon, ça reste quand même la chimie du vivant terrestre parce que c'est la seule qu'on a. Mais on ouvre les possibilités. Et ça a un impact aussi peut-être pour la recherche des exoplanètes, puisque les exoplanètes, on cherche des exoplanètes habitables. Donc pas trop loin ou pas trop près de leur étoile, on cherche une atmosphère. Moi, j'entends des astronomes dire, oui, mais peut-être que la vie en dehors du système solaire, là on part carrément ailleurs, c'est peut-être sur des lunes autour de planètes géantes d'autres étoiles aussi.
Alors si on continue à parcourir ces mondes au-delà de Mars, l'une des caractéristiques qu'on connaît sans doute le plus pour le grand public, c'est ces anneaux. Pourquoi on n'a pas des anneaux, nous ?
Très bonne question. Une des réponses peut-être, c'est peut-être que les anneaux ne sont pas permanents. Ce qui est fascinant en science, c'est que parfois, on ne va pas chercher des réponses, on va chercher d'autres questions. Parce que ces autres questions peuvent donner finalement des réponses et permettre de progresser. La Lune, au départ, elle a fait un anneau quand elle s'est formée. Il faut savoir que c'est un choc, hein, la Lune de la Terre. Il y a eu un choc avec un objet de la taille de Mars, c'est l'hypothèse principale, qui est bien confirmée par les observations actuelles. Et au départ, il faut imaginer qu'il y avait un nuage de débris autour de la Terre. Donc la Terre a eu quelque part une sorte d'anneau, et puis il y a eu une accrétion et ça a formé la Lune. Et c'est là d'ailleurs qu'on voit qu'étudier ces planètes géantes, ça permet aussi de mieux comprendre l'histoire de la Terre.
Alors pour comprendre tout ça, il faut aller observer de plus en plus près. On le fait aujourd'hui avec des sondes robotiques, des instruments qui vont mesurer de diverses manières, que ce soit la chimie, la géologie, la topographie de ces planètes ou de ces lunes, ou de ces anneaux, ou de ces astéroïdes aussi. Ben nous, alors, quand est-ce qu'on peut y aller ?
Alors, ça, c'est un sujet fascinant en lui-même. Il y a des vagues comme ça, c'est-à-dire l'exploration habitée dans le système solaire, c'est open bar, on peut aller où on veut. Il y a eu cette vague-là dans les années 50, on va dire, même avant, quand c'était la théorie Konstantin Tsiolkovsky, ce russe qui a théorisé le voyage spatial, donc on est plutôt 1900, lui, en gros, c'est on peut aller partout. Puis on se rend compte que c'est compliqué, Spoutnik, oulala, c'est compliqué, mais néanmoins, il y a l'espoir. Et on est dans les années 50, on se dit, on peut presque aller partout et on commence à poser des limites. Et puis ça revient dans les années 70-80, à nouveau, on a cette logique open bar. on peut aller partout parce qu'il y a la promesse de la navette spatiale qui va faire baisser le coût d'accès à l'espace. Et d'ailleurs, on le retrouve dans la science-fiction. Alors, je vais citer un film qu'on a peut-être oublié, c'est Outland, dans lequel on a une colonie minière sur Io pour extraire du titane, l'une de Jupiter. Mais c'est dans cet esprit-là de « on peut aller partout ». C'est-à-dire, il y avait déjà à l'époque des études NASA, est-ce qu'on pourrait y aller ? Attention, ce n'est pas des projets de mission. C'est des réflexions où la NASA pousse les curseurs. C'est de la prospective pure. Mais le film se base sur ces histoires-là. Et aujourd'hui, on a à la fois les deux, parce qu'on a à la fois ce courant qui est un peu un héritier de ce qu'on appelait le Mars Underground des années 80, quand la NASA a dit « bon, maintenant on arrête, Mars habité, on ne pourra pas ». Il y a des ingénieurs qui ont fait de l'underground, c'est-à-dire des, en gros, ils étaient des indépendants, ils ont fait des tas d'études pour démontrer que oui, on pouvait le faire, finalement, peut-être. Et en même temps, il y a aujourd'hui un discours à la fois de scientifiques et d'ingénieurs qui disent peut-être qu'on a un mur technologique et énergétique qui fait qu'en habité, je ne parle pas en robotique, en habité, Mars est peut-être la frontière qu'on n'arrivera jamais à dépasser. Jupiter, c'est des années de voyage, c'est des radiations, donc c'est même pas la peine de penser à emmener des gens là-bas. Et d'autres qui disent si, il faut juste trouver les solutions. Mais c'est assez fascinant de voir ça, parce qu'il y a des études. Il y a une étude qui s'appelle Human Outer Planets Exploration. Exploration des planètes externes, habitées.
Et ça veut dire que les scientifiques y réfléchissent, mais on va dire l'art ou la culture s'en empare aussi.
Oui, l'art et la culture s'en emparent, et parfois avec des ponts entre les deux. Par exemple, Geoffrey Landis, qui est un ingénieur de la NASA, scientifique aussi, lui, il a réfléchi au truc qui semble le plus improbable, c'est la colonisation de Vénus. Au départ, très mauvaise idée, 400 degrés à la surface, 90 fois la pression atmosphérique, on oublie complètement. Sauf que, si on pense autrement, Geoffrey Landis, il s'est dit, à 50 km d'altitude, la pression atmosphérique, c'est un bar, donc c'est le niveau de la mer, les températures sont de 0 à 50 degrés, et l'atmosphère, c'est du CO2. Ce qui veut dire que si on fait des villes flottantes au-dessus de Vénus, et il ose dire un peu en taquinant, il dit, en fait, c'est l'endroit qui est le plus semblable à la Terre dans le système solaire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il en a fait un roman, qui s'appelle « Le Sultan des nuages ».
Là, on parle de Vénus, mais si on veut revenir au-delà de l'imaginaire aussi, il se porte vers Uranus, Neptune, ou les deux géantes que sont Saturne et Jupiter.
Voilà. En vol habité, surtout Saturne et Jupiter, l'étude HOPE de la NASA, qui est ancienne maintenant, je crois que c'est dans les années 2000, ils envisageaient une mission sur Callisto. Et lors du premier retour vers la Lune, Constellation, celui de George W. Bush 2006-2005, Neil Armstrong a été appelé par la NASA pour faire un film, pour expliquer le programme. Et le film, c'était Earth, Moon, Mars and Beyond. Donc la Terre, la Lune, Mars et au-delà. Et le film se termine sur une petite séquence, alors très courte, hein, c'est 10 secondes, qui montre un vaisseau habité qui est sur orbite autour de Jupiter. C'est quand même assez fascinant dans un film NASA très officiel, avec Neil Armstrong qui a dû quand même regarder le film, et on a un vaisseau habité autour de Jupiter. Alors là, il y a à nouveau débat, c'est fantasme complet ou bah, peut-être que.
Alors justement, si on va au-delà, il faut aussi qu'on dise un mot au-delà de ces quatre planètes majeures dont on a parlé et de leur lune. Si on va encore plus loin, il y a une pauvre Pluton qui a perdu son statut.
Oui.
Il faut quand même qu'on en dise un mot dans ce système solaire. Comme ça, on peut un jour être une planète et le lendemain ne plus l'être.
Il y a eu un débat, c'est quoi une planète finalement ? Et donc on a défini trois critères. Ça tourne autour du Soleil ou de son étoile. C'est sphérique, non pas à cause de la forme, mais c'est un équilibre entre les forces de gravité et la cohésion du corps. Donc, OK, Pluton, les deux premiers, ça fonctionne. Le troisième, en revanche, qui fait un peu débat, c'est est-ce que ce corps a nettoyé son orbite ? Est-ce qu'il est l'objet dominant sur son orbite ? Et là, on a dit non, Pluton est un objet transneptunien, c'est un objet de la ceinture de Kuiper. Il y en a d'autres, et c'est vrai qu'il y a Eris, par exemple, qui est de taille comparable. Donc on s'est dit, ben, Pluton est une planète naine, pas au sens de taille, mais ce n'est pas une planète majeure, comme on pensait. Voilà. Mais Pluton, à nouveau, c'est un peu une surprise comme les lunes de Jupiter et de Saturne. On s'attendait à un corps figé, et on a découvert un corps actif. Alors attention, actif très lent, parce qu'il fait quand même très froid sur Pluton, c'est moins de 200 et en dessous, mais on a vu une géologie. Pluton n'est pas autant cratérisé que si c'était un objet inerte. Donc il y a une sorte de cycle de la glace là-bas qui forme des montagnes, et donc ça bouge. Donc on a sans doute encore d'autres surprises extraordinaires. Il y a des envies de faire un orbiteur autour de Pluton, voire de se poser, mais là on est... Il faut penser en termes de demi-siècle pour faire une mission de cet ordre-là. Il y a Uranus et Neptune qui sont des priorités scientifiques qui passeront peut-être avant Pluton, parce que ça fait des décennies que la communauté scientifique dit qu'il faut retourner vers Uranus et Neptune, on les a survolés qu'une fois. quelque part, ce n'est pas possible. Dans notre compréhension du système solaire, on ne peut pas avoir un point aveugle comme Uranus et Neptune en matière d'exploration spatiale.
Alors, il y a des mystères, il y a des choses à découvrir, et puis on a gardé le meilleur pour la fin. Il y a peut-être une planète qu'on ne connaît pas, une neuvième planète mystère.
La fameuse planète 9, on la doit à Mike Brown, celui, dit-on, qui a tué Pluton. Et mathématiquement, il a démontré que les orbites de certains corps du système solaire, selon lui, ne pouvaient s'expliquer que par la présence d'un objet en gros de la masse de Neptune, mais extrêmement loin. Mais l'ennui, c'est que c'est un objet mathématique. Il faut le trouver. Alors, il a calculé qu'il pouvait être saisi par des télescopes, même terrestres, mais de la classe des 8 mètres, par exemple le Subaru japonais qui est à Hawaï, ou le VLT européen. Mais l'ennui, c'est que ces télescopes ont des champs extrêmement étroits. Donc, il faut savoir où regarder. Et sur une planète aussi lointaine, ben, les possibilités d'orbite où elle peut être sont tellement gigantesques qu'il faudrait balayer le ciel et ces observatoires-là ne peuvent pas faire que ça. Pour l'instant, la planète 9 reste un objet théorique. Et puis, comme en science, il y a des gens qui ont dit non, les calculs de M. Brown, ils sont bien, mais on peut expliquer autrement. Donc voilà, peut-être qu'on la découvrira, mais ça prouve que le système solaire, on a l'impression qu'il est connu, mais on connaît les grandes lignes.
C'était Mars, la nouvelle odyssée, au-delà de la planète rouge, un podcast original France Info en partenariat avec la Cité de l'Espace à Toulouse.